Bienvenue dans cet épisode spécial podcaston enregistré aujourd'hui chez Quirk. C'est la deuxième édition de cet événement caritatif qui a lieu cette année du 25 au 31 mars 2024 et qui rassemble plus de 300 journalistes, animateurs, animatrices de podcasts. Et donc ensemble, on s'est mobilisés pour mettre en valeur le monde associatif à travers les podcasts. Pour cette nouvelle édition 2024, je suis très heureuse d'accueillir Édouard Joanneau-Taylor, le directeur de la communication du Refuge, et Dorit Nahon, l'une de leurs ambassadrices, qui vont tous deux nous parler des actions de la Fondation en faveur des jeunes de 16 à 25 ans, rejetés par leurs parents du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Et tout ça, comme toujours, en écoutant des archives INA.
Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer, l'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent devant leurs frères mourants de misère. Une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela, que tant de douleur nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci.
C'est l'appel du 1er février 1954 de l'abbé Pierre. Est-ce que tu peux réagir à cette archive et nous dire quel est le parallèle avec les actions du refuge, s'il te plaît?
Bah déjà, c'est un appel qui est tristement contemporain. Ça fait 70 ans quand même. Et en même temps, on a encore été cette année, on est en plein mois de février... On a encore été confrontés aux mêmes besoins, aux mêmes appels lancés par les assos. Donc ce sont des choses qui perdurent dans le temps. Et ça, c'est le premier symptôme d'une société aussi qui a besoin de repenser un peu son fonctionnement. Le Refuge, c'est une fondation qui est née en 2003, donc il y a 20 ans. Donc elle aussi qui est un petit peu âgée maintenant. Et qui accueille, héberge, accompagne des jeunes LGBT+, qui ont été victimes de violences de la part de leur famille, qui ont été rejetés par leurs parents, chassés du domicile, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Mais en vérité, pour faire le lien avec l'appel qu'on vient d'écouter, ce dernier critère de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, on y reviendra pendant l'entretien, mais enfin, là, précisément, il est presque anecdotique, en fait. C'est vrai que nous, on a cette mission... d'accueil, on appelle ça un accueil inconditionnel, c'est un terme technique lorsqu'on fait de l'hébergement, mais en fait c'est l'idée que, quelle que soit sa situation administrative, une personne peut être hébergée par le refuge, et puis ensuite il y a bien sûr, nous on est une asso qui est spécialisée dans un domaine, mais enfin, on voit qu'on est né nous aussi, un peu sur le fondement de cet appel-là aussi. En fait il y a des personnes LGBT+, qui sont rejetées par leurs parents, qui se retrouvent à la rue, qui ont un parcours de rue. Ils connaissent le sans-abrisme, avec tout ce que ça peut apporter comme danger, la précarité, les addictions, la confrontation à des dangers, des bagarres, des vols. Et puis une sortie en fait aussi de la société quelque part, c'est-à-dire qu'on perd son travail, donc on perd sa sociabilité, on perd ses liens avec, avec les autres, et donc de plus en plus on se met en retrait, pas volontairement en fait, on est mis en retrait, on est mis à la marge de la société. Donc le refuge, c'est une asso parmi d'autres qui a vocation à pallier cela, et donc à offrir un hébergement aux personnes qui en auraient besoin et qui ont été rejetés sur le fondement très spécifique de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Et donc, le refuge a 20 ans.
Ouais.
Et quand il a été fondé, il y a 20 ans, est-ce que tu sais s'il y avait eu beaucoup de personnes qui vous ont contacté, et comment est-ce qu'ils vous contactaient ?
Alors, en fait, c'est une asso qui est née sous un statut d'association, d'abord, en 2003, à Montpellier, avec une ambition qui était... toujours la même qu'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire accueillir, héberger, accompagner, aider dans la reconstruction les personnes qui en ont besoin. Mais évidemment, c'était dans des proportions qui étaient bien moindres qu'aujourd'hui. Depuis 2003, il y a une ligne d'écoute qui a été lancée, qui est aujourd'hui la porte d'entrée vers la fondation, c'est-à-dire que lorsqu'on est une jeune personne LGBT+, en situation d'exclusion, on appelle la ligne d'écoute pour avoir une orientation, un soutien, éventuellement une place, etc. Donc tout s'est construit en fait avec le temps, et nous ce qu'on remarque, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'ailleurs moi c'est des choses qu'on me dit très souvent dans ma vie perso quand je parle de mon travail, on me dit « Ah ça existe encore le refuge ?» Mais oui ça existe encore, mais non seulement ça existe encore, ça existe encore davantage qu'avant. C'est-à-dire que les besoins sont toujours aussi prégnants, et puis en fait on a la nécessité de diversifier aussi nos activités, de ne plus seulement faire de l'hébergement. L'hébergement aujourd'hui, c'est un peu le ticket de base, mais en fait, il y a l'accompagnement social, l'insertion professionnelle, l'accompagnement vers une formation rémunérante, le soutien psychologique, l'aide alimentaire. Donc en fait, toute une série de missions dont on considère qu'elles sont essentielles pour réinsérer une personne. C'est pas qu'une question de logement, c'est pas qu'une question d'hébergement. En fait, c'est aussi tout le package qui fait qu'on est inséré dans un groupe, dans une société.
Et donc, une des missions dont tu parlais et à laquelle on identifie le refuge, c'est effectivement l'hébergement.
Ouais.
Donc d'abord, la personne qui a été mise à la porte. Donc j'imagine que vous avez plutôt des très jeunes, non, qui vous contactent ?
Ouais. Alors nous, on est... En gros, on peut s'occuper de personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Pourquoi 18 ? Parce qu'en fait, les personnes, elles signent avec nous un contrat d'hébergement. Donc en fait, il faut qu'elles aient la possibilité de signer. C'est-à-dire qu'avant d'être majeur, on n'a pas le droit de signer des documents en France. Donc elles ont au moins 18 ans, et après il y a l'âge, la limite qui est indicative de 25 ans. Évidemment, nous on ne jette personne dehors lorsqu'elle atteint les 25 ans, mais c'est plutôt de se dire que déjà à 25 ans on peut avoir le RSA en France, ce qui n'est pas possible avant. Et en fait, on se dit bah à 25 ans on a les outils, on est à peu près normalement quand on a un parcours plus ou moins classique, mais enfin on est diplômé généralement, on trouve son premier emploi, donc en fait c'est un âge un peu repère pour se dire qu'on devient autonome. Néanmoins, on a aussi un dispositif d'accueil spécifique pour des mineurs qui se situent dans le Gard. Mais là, c'est très particulier parce que c'est en lien avec l'aide sociale à l'enfance.
Oui.
Ce sont des parcours très spécifiques. Ce sont des jeunes qui souvent étaient des jeunes dans des foyers et qui, dans les foyers, ont subi des LGBT-phobies. Donc des jeunes qui ont des parcours de précarité déjà très importants. Donc c'est un dispositif qui, je pense, aurait vocation à s'étendre, à être démultiplié. Mais aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul en France, c'est nous qui l'opérons, il se trouve dans le Gard.
Et les personnes qui contactent le refuge, est-ce que c'est un milieu social particulier ? Et est-ce que tu as vu une augmentation de demandes ou de souffrances de personnes transgenres ?
Alors, sur la question du milieu social, de l'origine, de la religion, etc., nous, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ça touche tous les milieux, toutes les origines, toutes les religions, avec des motivations qui sont différentes, mais en fait, il y a des familles... très traditionnel, très classique, à qui ça pose un vrai problème. Il y a des familles plus religieuses, etc. Enfin, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a ce phénomène qui a, alors, ça n'a un peu rien à voir, mais en fait, en urbanisme, on parle de quelque chose qui s'appelle NIMBY, Not in my backyard. Ça veut dire, je veux bien quelque chose, mais pas dans mon jardin, pas chez moi. Ben, en fait, il y a ce même sujet avec le fait d'être une personne LGBT+. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui trouve ça pas dérangeant que son enfant ait un ami ou une amie gay, lesbienne. Mais par contre, si l'enfant fait son coming out, c'est une autre histoire. Ça plaît moins quand même, parce qu'on va tout de suite penser à des mécanismes très classiques de « ah bah les petits-enfants, machin, puis quelle image, etc. Enfin, » donc ça, on le remarque beaucoup. Déjà, ça touche tous les milieux, toutes les familles. Sur la question des transidentités, Oui, c'est indéniable qu'aujourd'hui, il y a eu une vraie hausse dans les appels au secours qui sont reçus de la part de personnes trans.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, quand ils vous appellent ?
Bah, c'est souvent, j'ai nulle part où aller, j'ai été viré de chez moi, j'ai nulle part où aller, je sais pas quoi faire, je sors de l'hôpital, par exemple, s'il y a eu un cas de violence, je sors de l'hôpital et je peux pas retourner chez moi. Ou bien aussi, j'ai fait le choix de quitter la maison parce que ça devenait trop dangereux pour moi. J'étais face à des situations de violence qui étaient insupportables. Et donc, pour me protéger, il fallait que je quitte la maison. Et donc, c'est souvent la même chose. Je n'ai pas de solution, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas où aller. Et donc, face à ça, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, en fait. Nous, on a évidemment tout un dispositif qui permet d'accueillir, proposer un hébergement le plus rapidement possible. Mais en fait, la demande aujourd'hui, elle excède beaucoup l'offre disponible. Donc, on travaille aussi en réseau avec d'autres structures, alors qui ne font pas forcément la même chose que nous, mais qui peuvent apporter une forme d'aide. Et puis, en fait, les personnes, souvent, elles se reposent aussi sur des amis, par exemple. Ça arrive hein, qu'ils puissent être hébergés de temps en temps sur une petite période par des amis, ce qui juste laisse le temps de retomber sur ses pattes, de trouver autre chose. On fait fonctionner, en fait. On s'inscrit, nous, dans le paysage associatif, dans le paysage de l'économie sociale et solidaire, qui est un paysage en France très prolifique. On a la chance d'avoir un cadre législatif qui est très... qui est unique, d'ailleurs, dans le monde, mais qui permet le développement d'initiatives comme ça. Et du coup, en faisant ça, on essaye aussi de proposer une multitude de solutions en lien avec des partenaires. Ce n'est pas que nous, le refuge.
C'est qui les autres partenaires
alors ? En fait, moi, spontanément, je vais penser à des personnes qui ont des parcours de migration, par exemple, et qui vont être prises en charge par y a des assos comme l'ARDIS, par exemple, qui est une super association, et qui agit pour le soutien aux personnes exilées, qui ont fui leur pays parce qu'elles sont menacées de mort dans leur pays. L'homosexualité ou la transidentité est un crime dans beaucoup de pays encore. Et donc, elles fuient leur pays d'origine, elles arrivent en France, et là, elles ont besoin d'être accompagnées. Et donc, il y a un tissu associatif qui existe pour les aider, par exemple. Et puis, il n'y a pas que les assos, en fait. Il y a aussi la solidarité citoyenne, j'allais dire. Alors, quand je dis citoyen, c'est pas que les personnes françaises, mais en fait, c'est toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont envie, parce qu'elles trouvent ça insupportable, intolérable, de rejeter une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Bah, elles participent à cette œuvre un peu globale. Et donc, il y a de la solidarité locale. Ça passe par plein de biais, en fait. C'est ça qui est beau aussi, moi, je trouve, dans le paysage associatif français.
Oui, parce que tu disais qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, notamment proche de chez nous, je pense à la Turquie, où c'est considéré toujours comme un délit. En France, la dépénalisation, c'est 1982 avec Robert Badinter. Avant, on allait en prison et on voyait son nom noté dans les journaux pour le délit donc, d'homosexualité. Et tu disais également qu'il y avait donc une part importante de bénévoles, finalement, à la fois qui peuvent être affiliés au refuge et à la fois d'individus de tous les jours.
Oui, bah en fait, après, quand j'évoque les individus de tous les jours, entre guillemets, c'est parce que je sais que dans la population, il y a un esprit de fraternité aussi qui existe, et ça, c'est super beau. Nous, au refuge, on a la chance, en fait, d'avoir un modèle hybride qui repose sur une équipe salariés composés de travailleurs sociaux, travailleuses sociales, qui est très riche, très formée, très précieuse, parce que ça, c'est assez unique dans le paysage associatif pour les assos qui sont similaires à nous. Mais en fait, on a aussi, pour compléter ça, et pour faire l'autre jambe en fait, sur laquelle marche la fondation, une grosse équipe de bénévoles. On a 400 bénévoles aujourd'hui engagés dans toute la France, dans l'Hexagone, mais aussi dans les Outre-mer. De sorte que on peut proposer aux personnes qu'on accueille à la fois un accompagnement, un encadrement très professionnel, et puis en même temps, donc là qui est assuré par les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales, et puis en même temps, ben, des animations culturelles, une vie, des interactions, du soutien qui est assuré aussi par des bénévoles, et c'est cette complémentarité-là qui est très intéressante. Parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment la rencontre de plein d'initiatives, de gens qui ont envie de s'engager, soit dans leur métier, soit dans leur vie perso à côté de leur travail. Moi, j'admire les bénévoles, d'ailleurs, parce que c'est des personnes qui, parfois, font 35 heures de bénévolat en plus d'une activité professionnelle. Et qui, en fait, le soir, quand elles quittent le taf, vont au refuge, s'engagent, font des soirées entières, des week-ends. Je pense aussi aux bénévoles de la ligne d'écoute dont on parlait très brièvement tout à l'heure, mais en fait, c'est une ligne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est coordonnée par 2 salariés aujourd'hui, mais dont l'ensemble des écoutants, ils sont 19 aujourd'hui, 19-20, sont des personnes bénévoles. Et donc en fait, c'est des personnes qui font les nuits, les week-ends, et parfois qui font des nuits entières à écouter, à prendre la ligne, comme on dit, et puis qui vont accueillir les personnes qui appellent, qui ont besoin d'aide, etc. Ça, c'est des engagements qui sont très marquants, je trouve, parce qu'en fait, il y a une dose d'affect, de personnel qui rentre là-dedans, qui est très importante. Quand on est une personne LGBT et qu'on prend la ligne d'écoute, et qu'on entend d'autres personnes qui sont en détresse très forte, parfois qui ont des pensées suicidaires, c'est très dur, en fait, d'être confronté à tout ça. Donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes qui s'engagent, que ce soit par leur métier. Je trouve ça, à titre perso, je suis fier d'être salarié d'une fondation qui œuvre dans ce domaine-là, parce que c'est mon engagement à moi aussi. Je ne suis pas que salarié, c'est un engagement perso à côté. Mais j'ai évidemment beaucoup d'admiration aussi pour les bénévoles, donc je trouve que c'est un engagement de fou de pouvoir se donner autant pour une cause.
Et c'est quoi les chiffres? Le refuge, ça accueille combien? Ça prend combien de lignes?
Donc aujourd'hui, alors à la même période l'an dernier, il y avait 150 places d'hébergement. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 220. On atteindra les 300 places à l'été. On avait vraiment, nous, eu cet objectif de doubler le nombre de places pour faire face, en fait, à une demande qui est constante. Donc, en gros, ce sont 200 jeunes hébergés chaque année, 500 qui sont accompagnés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont accompagnées par le refuge, mais qui ne sont pas forcément hébergées par nous, qui ont des solutions par ailleurs. 400 bénévoles, 35 travailleurs sociaux, travailleuses sociales. Et puis, un réseau, et ça c'est très important, de mécènes, une trentaine, quarantaine d'entreprises engagées à côté de nous, mais aussi de donateurs particuliers, 20 000 personnes qui soutiennent le refuge financièrement. Et pour des structures comme les nôtres, l'argent c'est le nerf de la guerre, parce qu'on est une fondation qui se repose en majorité aujourd'hui sur des financements privés. Et donc, ben, évidemment, ça a du sens pour nous aussi de faire des appels aux dons, de faire des campagnes de levée de fonds, parce que c'est assurer la pérennité de nos actions, en fait. Et elles ont besoin d'être pérennes.
De continuer d'aider.
De continuer d'aider, en fait. Je disais tout à l'heure cette phrase, ah, le refuge, ça existe encore. C'est une phrase que moi, j'entends très souvent. Et je sais qu'elle vient toujours d'une très bonne intention, mais ce n'est pas une phrase que moi, j'apprécie particulièrement, parce qu'en fait, je pense que la lutte, elle est permanente, en fait. On aura tout le temps, en tant que minorité, des choses à aller chercher, parce que l'égalité réelle, elle est très lointaine encore. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de transidentité. C'est un sujet qui n'existait pas dans le débat public. C'était déjà très vivant dans les communautés LGBT+. Ça fait 60, 70 ans qu'on a des figures trans qui existent. Robert Van Inter, que tu citais d'ailleurs tout à l'heure, a été l'avocat qui a défendu une personne trans, une femme trans qui s'appelait Coccinelle, qui était une performeuse parisienne. Ça date des années 60 ou 70, je pense. Donc c'est très ancien tout ça. Pourtant, il y a 10 ans encore, on ne parlait pas de transidentité à la télé. Et aujourd'hui, ça a pris de la place dans le débat public, avec son lot de transphobie, de haine, de rejet, de violence. Et donc, c'est ça qui montre qu'en fait, notre office, il est très contemporain, il est très actuel, et on doit poursuivre. Et donc, en fait, on découvre que plus on continue de creuser, plus on trouve encore des sujets de grande tension sur lesquels, nous, on a le devoir d'agir et d'être au rendez-vous. Et on le doit notamment, déjà, à ce qu'on pense, mais on le doit aussi, surtout, aux personnes qu'on accueille, en fait. Elles sont chez nous, enfin, elles sont chez elles, en vérité, et nous, on organise juste leur accueil. Elles sont chez elles et on doit les défendre, on doit porter leur voix. On a de la chance d'avoir une belle plateforme. Moi, j'ai de la chance de pouvoir parler de ça ici aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je veux utiliser aussi les plateformes qu'on a, à travers les ambassadeurs et ambassadrices aussi, pour porter leur voix, parce que ce sont des personnes auxquelles on a dit « tu n'as pas le droit de citer, tu n'as pas le droit de parler, tu n'es personne, tu n'es rien, tu es un monstre. » Donc ça, c'est des choses qu'on veut contrer, justement en portant des voix qui sont importantes.
Banalisation, je dirais pas non plus banalisation, parce que c'est loin d'être banal encore aujourd'hui. On voit très bien que dès qu'on parle de transidentité ou de non-binarité, on a énormément de réactions et négatives pour la plupart. Après, je pense pas trop aux parents dans ce cas. Je pense qu'on peut être très optimiste Parce que dans les 3-4 dernières années, on a eu beaucoup plus de représentation et de visibilité, ce qui fait que les jeunes se sentent beaucoup plus identifiés, représentés, et ils ont le courage et surtout l'envie de s'exprimer et d'être qui ils ou elles sont.
Et ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est vous, en fait. C'est les réseaux sociaux qui ont explosé.
Exactement.
C'est les comptes Insta, c'est tout ça qui permet de dialoguer avant d'affronter ses parents, commencer par dialoguer avec vous, c'est ça qui a tout changé.
La représentation, c'est tout. Pour nous, c'est tout. Et on en parlait justement. Le sondage qu'on parlait, que les Espagnols sont bien en avance. Avant les réseaux sociaux, les Espagnols étaient déjà en avance au niveau de la représentation et de la visibilité. Ils ont des journalistes qui sont ouvertement homo, lesbiennes, même transgenres, avant les réseaux sociaux. Donc évidemment, la société a progressé dans ce sens-là. Aujourd'hui en France, on a quelques présentateurs qui sont ouvertement homo, encore très peu, par rapport au milieu, parce qu'on le sait très bien, et on a absolument pas beaucoup de représentation par rapport à nos pays voisins.
C'est une archive de 2022 du Téléphone Sonne. Donc on a entendu Cédric Feto, le cofondateur du Media Paint. Alors, il y a deux choses dans l'archive, donc je t'apporte juste quelques petites précisions. Un rapport IFOP de 2018 qui disait que près d'une personne LGBT+ sur 3 n'ose pas ou ne veut pas déclarer sa sexualité à son entourage. Et il y avait aussi la question qui était posée: si un membre de votre famille vous annonçait qu'il ou elle était gay ou bi, est-ce que vous la soutiendrez? Les Espagnols répondaient oui à 91%, les Britanniques à 85%, les Italiens 82% et la France à 57%. Mmh. Et c'est ce dont parle Cédric Feto dans cette archive. Est-ce que tu peux réagir à ce qui est dit avec ce complément sur les chiffres?
Je suis d'accord avec absolument tout ce qui a été dit. J'apprécie vraiment le Media Paint, par ailleurs, que je trouve hyper bien fait au niveau des contenus pour sensibiliser, pour vulgariser, ce qui est très important aussi. Il y a plein de choses. En fait, je pense, moi aussi, que le sujet des représentations, il est essentiel. Et il n'y a pas besoin de remonter très loin pour se dire qu'on a manqué de représentation. Moi, j'ai 27 ans, j'ai manqué de représentation à la télé, dans la musique, à la radio, dans les médias. Et ça a des conséquences qui sont très fortes sur le développement des personnes, sur la confiance qu'elles peuvent avoir en elles. Et donc nous, ça c'est un travail qu'on essaye de mener à notre échelle, mais c'est pour ça qu'on a en fait décidé de joindre notre action à celle d'ambassadeurs et d'ambassadrices, en fait, qui sont des personnes dans différents domaines qui vont soutenir notre parole, pouvoir faire connaître le refuge. Mais en fait, ça va au-delà de faire connaître le refuge. L'enjeu, c'est pas tant spécifiquement la fondation Le Refuge. C'est en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'action qu'on mène? Quel est le message qu'on veut faire passer? Et qu'en fait, les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais nous, on prend en charge des jeunes, mais ensuite, ça peut aussi toucher, et j'espère que ça touche d'ailleurs des personnes de tous âges, que ces personnes-là puissent se dire qu'il existe en France des dispositifs, des discours qui visent à ouvrir les esprits, à normaliser, entre guillemets, en tout cas à banaliser des façons de vivre, des identités, des façons d'être libres. C'est très important pour nous, en fait. Alors, il parlait du monde des médias. Moi, je pense spontanément à Jean-Baptiste Marteau, qui est un journaliste qui travaille beaucoup avec nous, qui fait un très beau travail de visibilisation de l'homosexualité dans les médias. Il est ouvertement gay. Il parle sur les réseaux sociaux de son parcours. Il est papa. C'est très important. Et puis, on mène ce travail-là un peu dans tous les domaines. Sur les chiffres-là que tu mentionnes, sur l'étude, moi, elle ne me surprend pas. Ce sont des choses que nous aussi, évidemment, on constate. En fait, je trouve que ce qui est intéressant à dire, c'est que l'homophobie, la transphobie, ça fait partie de ces très rares discriminations qui s'expriment dans la rue, bien sûr, à l'école, au travail, mais aussi dans l'intimité du foyer. En fait, c'est rare de voir des discriminations qu'on connaît quand on est chez soi, quand on est dans un environnement sécurisé, qui est censé être sécurisant. Et en fait, pour les sujets de LGBT-phobie, ça se matérialise partout, y compris dans sa famille, dans le foyer. Et c'est ça qui est très dur, en fait. Et donc, c'est dire qu'il y a un Français sur deux, un peu plus d'un Français sur deux seulement, qui accepterait, qui soutiendrait un membre de sa famille ouvertement LGBT, je trouve que c'est une statistique qui est déplorable Et on s'emploie donc avec nos bénévoles, mais nos ambassadeurs et nos ambassadrices aussi, à mener ce travail-là. Et voilà, moi, je suis très content qu'on puisse faire ça dans tous les aspects. Je parle de la famille là, mais ça va peut-être un peu faire le lien aussi avec Dorit, parce qu'on a un sujet sur le monde du travail aussi. Nous, en fait, on accompagne des personnes dans leur reconstruction, on les aide, etc. Mais en fait, si c'est pour que derrière, elles soient confrontées à des LGBT-phobies au travail, mm-hmm. bah, c'est un échec, en fait. Donc, il faut que ce soit un processus qui s'applique à l'ensemble des aspects de la vie. Donc, c'est très important que la réponse soit coordonnée.
Alors, pour compléter ce que tu dis, effectivement, ouais. SOS Homophobie avait fait ouais. Avait rendu public donc, un rapport qu'ils ouais. avaient réalisé en 2022 qu'ils comparent à 2019. Ils ne prennent pas les années de confinement.
Ouais.
Ils disaient que les plaintes déposées donc, pour crimes et délits envers des personnes LGBT+, avaient augmenté de 12% entre 2019 et 2022. Et surtout, c'est ce que tu disais, le harcèlement en ligne, ça reste le premier lieu, mais le second lieu, c'est la sphère familiale. C'est la famille, puisqu'il y avait 15% des témoignages qui étaient recueillis par SOS Homophobie qui relataient des faits de violence intrafamiliale. Ouais. Et c'était en hausse de 13% ouais. par rapport à 2020. Donc, et après, effectivement, il y a le travail, c'est 11% des faits reprochés. Ouais. Toi, Dorit, t'es marraine du refuge, est-ce que tu peux nous dire depuis quand, pourquoi et qu'est-ce que représente cet engagement pour toi et aussi à quel point il est utile d'avoir des modèles à l'ère, justement, des réseaux sociaux.
Bien sûr. Je suis ambassadrice du refuge depuis octobre 2022. C'est une énorme fierté pour moi parce que les actions sont malheureusement trop encore nécessaires. On l'a vu avec l'archive de l'abbé Pierre. Et les actions au niveau du monde du travail, elles s'articulent sous des axes qui malheureusement sont toujours nécessaires aussi. Là, moi, je peux donner des chiffres. On a quand même 74% des salariés qui ne parlent pas du fait qu'ils sont LGBT+ au travail. Mmh. C'est une étude IFOP. Mmh. Et on a 13% des salariés qui se prétendent hétéros. Mmh. Ça, pour moi, c'est un drame dans le monde du travail parce qu'on va bosser de 9h à 17h tous les jours. Mmh. C'est pour être soi-même, c'est pour être à l'aise, c'est pas pour aller bosser la boule au ventre et pour porter un masque. Et pourtant, ces jeunes LGBT+-là portent un masque. Moi, je suis désolée, mais Bernard, quand il va raconter ses vacances à la machine à café et qu'il va parler de sa femme et de ses enfants, il est fier. Il se pose aucune question et ça ne choque personne. Donc je ne vois pas pourquoi en 2024, ça choquerait des gens d'entendre que, par exemple, moi, si j'étais salarié à la machine à café, bah, je parlerais de ma meuf et des enfants qu'on a. Pourquoi ça doit encore être un sujet? Et pourtant, ça en est un, parce que les répercussions, elles sont réelles. Ces personnes, elles ont peur d'être placardisées, elles ont peur d'avoir un refus de formation, elles ont peur d'avoir un refus d'évolution de carrière, refus d'augmentation de salaire, et avant tout ça, d'être embauché. La peur commence dès le recrutement. Est-ce que je dois le cacher? Est-ce que je dois mentir? Est-ce que je dois me dissimuler pour me fondre dans la masse? Et c'est terrible, parce que, je le répète, on est en 2024. Et pour répondre à ta question, Elvire, bien entendu que les représentations sont fondamentales, parce que c'est ce qui va permettre aujourd'hui aux jeunes et aux gens même en général, parce qu'on le rappelle, les coming out, c'est de tout âge, les représentations donnent ce courage-là. Et moi, comme tu le disais, Edouard, bah moi, j'en ai pas eu non plus. Hein. J'ai pas eu de représentation, j'ai 30 ans. Et aujourd'hui, on a des personnalités comme Angèle, comme Oshi, comme Eddie de Préto, qui finalement libèrent la parole et lèvent ce qui, malheureusement, en 2024, est toujours un tabou.
Pour rebondir, en fait, sur les LGBT-phobies, contrairement à, encore une fois, d'autres formes de discrimination, il y a cette idée, par ailleurs, que ça peut être une opinion, en fait. Que j'ai le droit de trouver quelque chose sale. J'ai le droit de ne pas aimer, j'ai le droit de dire que je n'aime pas. Et les gens oublient que c'est illégal, que c'est un délit, que être homophobe, être transphobe, c'est interdit par la loi, en fait, en France. Que ce soit au travail, ou dans la rue, ou sur les réseaux sociaux. Parce qu'on associe ça, effectivement, à une histoire de mœurs. On pense que c'est une question de « oui, mais moi, j'ai pas été éduqué comme ça, c'est pas ça qu'on m'a enseigné ». Peu importe. Alors évidemment, on n'a pas la possibilité d'aller, et puis ce serait pas du tout vertueux d'ailleurs, d'aller dans le cerveau des gens. On peut pas empêcher les gens de penser des choses. Par contre, on n'a pas le droit de le dire.
Bien sûr.
Et en fait, ça, il faut le rappeler aussi. C'est pas une opinion. Être homophobe, c'est pas une opinion, c'est un délit.
Être homophobe, c'est un délit, et alors souvent rapproché à une perception. D'ailleurs, dans les sondages, souvent, c'est la perception. Alors, je redonne quelques chiffres, mais il y a des évolutions quand même qui sont notables.
sur la perception de l'homosexualité. Donc, ouais. Près de 9 Français sur 10 disent aujourd'hui que l'homosexualité, c'est une manière comme une autre de vivre sa sexualité. 8% estiment que c'est une maladie, 7% une perversion.
C'est énorme.
C'est incroyable.
Voilà, c'était en juin 2019. Alors qu'au milieu des années 70, là où c'était encore considéré comme un délit, les Français étaient beaucoup plus partagés à l'époque. 42% voyaient l'homosexualité comme une maladie,
ouais.
Et 22% comme une perversion. Ça veut dire que le niveau de tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, il a doublé entre 81 et 2018, ouais. L'indice passant de 3 à 6,6. Donc il y a encore quand même du chemin à faire.
Ouais.
Mais moi, ce que je perçois quand même dans, ouais, certaines entreprises, c'est les congés. Alors, c'est pour sur le genre. Hein. C'est des congés qui sont donnés. Là, la Maïf a fait un communiqué de presse il y a une semaine où ils octroient des jours de congés pour les personnes en transition. Donc, il me semble qu'il y a certains endroits dans la, ouais, société où ça commence, notamment dans l'entreprise, à être un petit peu entendu. Je ne sais pas ce que vous pensez, si vous, comment vous le percevez.
Ben, moi, je trouve que c'est vertueux et que c'est vers ce genre de modèle-là qu'il faut tendre, en fait. L'idée qu'on puisse continuer de regarder la société avec un masque un petit peu aveuglant, qui est celui d'un universalisme un petit peu radical, un petit peu restrictif, pour moi, n'a pas de sens. Parce qu'en fait, la clé, on va parler des orgas, je pense que c'est ça qui est très intéressant. Moi, je suis passionné par la façon dont les entreprises, en fait, peuvent contribuer à des changements dans la société. En fait, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui que plutôt que de mettre les lunettes aveuglante de cet universalisme un peu restrictif, au contraire, on accepte de voir les différences des gens. Mais pas pour avoir des traitements qui seraient ségrégatifs, mais au contraire pour dire, bah, on a des salariés qui sont des éléments chez nous qui sont essentiels, comme tous les autres, qui font partie de l'organisation et dont la présence nous importe, bah, qu'on va accompagner. En fait, ce sont des personnes qui ont des besoins spécifiques, qui ont dans leur vie perso un chemin, en l'occurrence la transition, qui est un chemin qui parfois est long, qui n'est pas toujours simple. Mais souvent, c'est pas simple. Je voudrais casser cette idée que être trans, c'est un mal-être, fondamentalement, intrinsèquement. En fait, ce qui crée le mal-être, c'est la transphobie. La dysphorie de genre, qui est ce que ressentent les personnes trans parfois, pas toutes d'ailleurs, mais ce que certaines personnes trans ressentent par rapport à leur image et puis au genre qui leur a été assigné à la naissance. Bah, en fait, c'est quelque chose qui est rendu encore plus important par les pressions qui émanent du reste de la société. Donc, que des organisations s'engagent pour accompagner leurs salariés, moi je trouve ça, leurs salariés ou les fonctionnaires dans le cadre de collectivités par exemple, mais je trouve que c'est très important. Et ça, ça montre le chemin. Et les orgas qui sont prêtes à prendre ce tournant-là, ce sont les orgas qui vont suivre. Il y a une règle dans le libéralisme à laquelle moi, perso, je ne crois pas du tout, mais en tout cas, qui est qu'une orga doit savoir s'adapter si elle veut survivre. Mais en fait, l'adaptation de notre temps, elle se joue sur ça aussi. C'est pas que des critères économiques, c'est pas que désormais l'environnement, c'est aussi des critères sociaux, sociétaux. Et en fait, il faut que les orgas soient prêtes à prendre ce tournant-là si elles veulent survivre. Parce que la jeune génération, il y a une étude qui est sortie dans Les Échos il y a trois semaines, un mois maintenant, qui dit que pour la génération qui entre sur le marché du travail actuellement, dont moi je fais partie, enfin ça fait 5 ans que je travaille, mais bah pour nous, c'est essentiel, en fait, de travailler dans une organisation qui a comme première motivation le fait de faire bouger les lignes sur les questions sociales et sociétales.
Oui, bien sûr. Oui, je suis totalement d'accord. En fait, aujourd'hui, il y a un grand problème dans le monde du travail, surtout à la période des Prides, c'est le pinkwashing. C'est la période des Prides, t'as toutes les entreprises qui mettent des logos arc-en-ciel. Alors, c'est un problème parce qu'à l'année, il faut des vraies actions. Et ça va dans le sens de ce que tu dis, Edouard. En fait, ça, c'est de la marque employeur. C'est-à-dire qu'une entreprise, aujourd'hui, a besoin d'attirer des talents et a besoin de fidéliser les employés déjà présents. Notamment la génération Z, qui ne regarde plus le salaire en premier lieu, qui regarde en premier lieu la quête de sens. Est-ce que mon boulot a du sens? Est-ce que je bosse pour une entreprise dont je suis fière? La notion de fierté, elle est très importante. Sinon, on parle de désengagement, c'est un grand terme RH. Les gens ne se sentent plus fédérés à la culture d'entreprise et ils partent, ou alors ils ne veulent pas bosser pour l'entreprise.
Des démissions silencieuses.
Démissions silencieuses, ouais. Et dans le cadre de la diversité et de l'inclusion, et donc des LGBT+phobies, bien entendu que c'est un sujet. Et les entreprises ont des solutions aujourd'hui. On va parler, tu les connais très bien, de l'autre cercle, par exemple, qui propose des chartes d'engagement contre les LGBT+phobies signées par les entreprises. Et pour moi, finalement, les actions les plus fortes qu'une entreprise peut prendre en termes d'engagement contre les LGBT+phobies, c'est ça. C'est que le dirigeant sorte de son bureau au lieu de ne pas se positionner, parce que pour moi, un non-positionnement contre les LGBT+phobies, c'est un positionnement, c'est une forme de tolérance. Ça laisse une culture d'entreprise floue, et on rappelle que la base du management, c'est le cadre et la structure, et ça passe aussi par structurer une culture d'entreprise et dire « moi, dirigeant, je m'engage personnellement contre les LGBT+phobies et c'est tolérance zéro ». Et là, les personnes qui font partie d'une équipe et qui pourraient dévier vers, soi-disant, de l'humour, on connaît l'humour autour de la grossophobie, autour de la religion, autour des LGBT+phobies, ça ne passera pas. Et ces personnes-là partiront naturellement. Et les autres, celles qui pourraient se dire « ouais, peut-être qu'on peut se permettre parce que finalement, il y a cette zone de flou », il n'y a plus de zone de flou. L'engagement du dirigeant, qui est l'exemplarité de l'entreprise, est extrêmement important. Donc pour moi, ça, c'est la première chose. Et évidemment, on rappelle que, bien entendu, une entreprise peut faire intervenir des alliés, des associations. Et si, c'est important aussi d'en parler, on est un salarié victime de LGBT+phobie, essayez d'identifier au sein de l'entreprise un allié. Si on regarde autour de soi, on a toujours un collègue bienveillant qui pourrait... à qui on pourrait se confier et qui pourrait peut-être jouer ce rôle de médiateur et, ou même de confident. Mais en tout cas, se murer dans le silence, personne ne mérite ça, en fait. Ouais. Je le répète, on va bosser tous les jours de 9h à 17h, voire plus quand on est surengagé. On passe le plus clair de son temps au travail. Non, on doit verbaliser et surtout, ça n'est pas normal. Comme tu l'as dit, Edouard, l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit et ça doit se faire savoir au travail. Ça, c'est très important.
Est-ce que tu peux rappeler l'autre cercle pour que tout le monde comprenne exactement comment cet organisme œuvre ?
Alors l'autre cercle, ils mettent en place une charte d'engagement contre les LGBT+phobies et cette charte est signée par les entreprises. Et c'est un acte très fort parce que ça symbolise le fait que l'entreprise réellement s'engage et ne tolérera pas de dérive. Alors évidemment, ça ne doit pas être simplement... une signature et on l'affiche. Non, non, non. Ça doit s'accompagner d'une réunion, d'une prise de parole du dirigeant, des explications. La communication, elle est extrêmement importante en entreprise. Et de dire, voilà, je l'ai signé parce que je m'engage et parce que je ne tolérerai rien dans mon entreprise comme dérapage. Et là, le cadre est posé. Et c'est pour ça que c'est très important. Au-delà de la signature, je dirais même que c'est vraiment le discours qui l'accompagne, qui donne tout son sens à la signature, finalement.
Tout à fait.
Et tu veux compléter, tu veux dire quelque chose?
Oui, bah, j'allais continuer en fait, sur ce sujet de l'engagement des partenaires, en fait, que ce soit des entreprises privées ou bien des collectivités ou d'autres associations d'ailleurs. Nous, en fait, on a décidé de permettre justement à des partenaires qui voudraient concrétiser, rendre tangible un engagement, travailler avec nous sur des sujets, par exemple, d'insertion professionnelle. Il y a le sujet du financement que j'ai évoqué tout à l'heure. On a des entreprises mécènes, très important de les avoir avec nous, c'est essentiel, parce que ça, c'est... la structuration de notre activité, ça assure la pérennité de nos actions, et c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Mais ensuite, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est bien sûr de pouvoir travailler avec les orgas sur des parcours d'insertion professionnelle, où en fait, on va, l'entreprise, elle va dire « moi, je ne suis pas seulement engagé idéologiquement pour garantir que les salariés chez moi peuvent faire leur coming out, peuvent parler de leur vie perso en toute tranquillité. » C'est aussi, en fait... bah, je vais prendre en stage ou en alternance des jeunes hébergés par le refuge, par exemple. Et puis, à l'issue de l'alternance, je vais leur proposer un CDI. M'assurer qu'en fait, ces personnes-là, elles sont intégrées dans notre culture d'entreprise, qu'on a la capacité de leur transmettre aussi ça. C'est pas que aux nouveaux arrivants de s'adapter à l'organisation. C'est aussi à leur organisation de savoir évoluer avec les nouveaux visages qu'ils intègrent. Et donc, en fait, moi, j'apprécie beaucoup qu'on puisse travailler sur ça. C'est quelque chose dont je suis assez fier à la Fondation parce qu'on encourage tous les partenaires de bonne volonté à travailler avec nous sur des applications très concrètes de la lutte contre l'LGBT-phobie dans le milieu du travail. Et donc, voilà, moi, je pense à des partenaires aujourd'hui qui sont les nôtres, avec qui ont signé la charte de l'autre cercle, mais qui, en plus, avec nous, signent des engagements supplémentaires. Ben en fait, pour, par exemple, je pense à l'Institut des métiers d'excellence LVMH, qui est un dispositif qui permet en fait de former chaque année des jeunes à des métiers d'artisanat d'art, sur des secteurs donc en grande tension, oui. Sur des métiers très 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 qualifiés qu'on connaît assez peu, que spontanément on n'irait pas forcément voir. Et en fait, on a un partenariat qui nous permet d'intégrer avec, je vais pas dire plus de facilité parce que c'est toujours le même niveau d'exigence, mais en fait avec compréhension de pouvoir intégrer des jeunes accueillis par le refuge en les amenant vers ces métiers-là. Et donc pour nous, c'est génial parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont passionnées, qui, comme tous les jeunes, ont des rêves ou ont envie de poursuivre une carrière dans tel ou tel domaine et à qui on dit, il y a deux jeunes aujourd'hui en ce moment-là qui sont dans ce programme-là avec l'Institut des métiers d'excellence. Et en fait, ce sont des jeunes qui poursuivent soit en couture, soit en maroquinerie. Y a plein de domaines différents et je trouve ça très intéressant. En fait. C'est là qu'on voit la façon dont une entreprise a vraiment envie de s'engager, en fait, au-delà de postures publiques.
Oui, au-delà de la signature, finalement.
Ouais. Complètement. Et
oui, parce que l'action, quand même, effectivement, de la Fondation Le Refuge, c'est offrir des places.
Oui.
On a toujours cette idée, la première, mais il y a tout le parcours, finalement, c'est-à-dire que vous les accompagnez de bout en bout jusqu'à leur trouver une insertion professionnelle. Donc, c'est aussi, donc, comme tu viens de le dire, intégrer, proposer par le biais de partenariats des formations.
Des formations. En fait, c'est un chemin vers l'insertion professionnelle ou vers la formation rémunérante.
Et vous-même, est-ce que vous mettez en place des actions de sensibilisation dans les écoles et de formation? Et si oui, j'aimerais bien que tu en parles, s'il te plaît.
Alors, bien sûr. C'est un truc qu'on fait qui tend à se développer encore plus. Aujourd'hui, on a un service formation, un service sensibilisation, conseil et formation, comme il s'appelle, qui comporte 2 salariés, ce qui est une chance. Mm-hmm. Et en fait, ce service a plusieurs vocations. Il y a d'abord un aspect qui est essentiel, qui est la formation des publics les plus jeunes. Parce qu'on sait que l'école, moi j'en ai été victime moi-même, c'est un terrain de LGBT-phobie très fort. Mmh. Pas que LGBT-phobie, bien évidemment. Là, je parle de mon sujet en l'occurrence, mais l'LGBT-phobie, elle se croise avec d'autres discriminations. Du racisme, grossophobie, antisémitisme, etc., islamophobie. Enfin, bon. Et donc, nous, ce qu'on fait très souvent, dans toute la France à nouveau, c'est des interventions en milieu scolaire, des IMS, comme on appelle ça, auprès d'adolescents, collégiens, lycéens. Ça fait partie des parcours aujourd'hui qui sont obligatoires dans l'éducation nationale. Hein, donc il faut aussi se retirer cette idée de la tête que les assos, elles viennent dans les écoles pour laver le cerveau des enfants. En fait, tout ça est coordonné avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les chefs d'établissement qui nous demandent de venir parce qu'il y a des parcours spécifiques à suivre, etc. Donc tout ça fonctionne très bien et est très, très vertueux, je pense. Ça, c'est la première chose. Donc on forme chaque année quasiment 8000 adolescents. Enfin, on les sensibilise en tout cas. Ensuite, il y a le deuxième aspect qui est la sensibilisation des collaborateurs dans une entreprise. On en parlait tout à l'heure, en fait, mais ça fait partie d'une package, entre guillemets, qu'on propose, nous, aux organisations qui ont envie de s'engager. C'est-à-dire qu'en fait, on va, dans les entreprises, parler aux collaborateurs et collaboratrices des LGBT-phobies. Tu parlais de la possibilité d'évoquer, par exemple, sa situation personnelle au travail.
Vous rappelez que c'est un délit, j'imagine.
Alors, on rappelle que c'est un délit, par ailleurs, d'être homophobe, d'avoir des remarques, de dire PD, Gwyn, etc. Ce sont des insultes, des injures qui sont répréhensibles.
Et on risque quoi, d'ailleurs ?
Alors, il y a un sujet, en fait, après, je pense, moi, de suivi au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'après, on a encore du mal aujourd'hui, et parce que les transitions, ça prend beaucoup de temps, ce sont des choses c'est des processus qui sont très longs, les systèmes sont très implantés. Donc aujourd'hui, c'est pas simple d'aller porter plainte, c'est pas simple de se retrouver devant le juge et c'est pas simple de faire reconnaître la circonstance aggravante d'homophobie ou de transphobie. Donc aujourd'hui, au-delà de ce que la loi peut prévoir, il y a malheureusement assez peu encore de cas où c'est vraiment tranché par le juge. Ça va bouger, mais c'est le rôle des assos aussi et de la société, des citoyens, de s'engager là-dessus.
Et tu sais ce qu'on risque sinon ?
Aujourd'hui, ce qui est prévu dans les textes, c'est jusqu'à 1 an de prison et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Et donc nous, on s'attache aussi à rappeler que ça s'applique aussi au monde du travail et qu'en fait, en dépit de toutes les nouvelles cultures professionnelles dans lesquelles il y a cette idée qu'en entreprise, on est bien, on est une famille, etc., on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout se permettre. Et que, nous, ça nous encourage à continuer de sensibiliser les collaborateurs et collaboratrices des entreprises sur le fait que, d'abord, on peut être victime de LGBT-phobie dite ordinaire, sans forcément d'ailleurs s'en rendre compte. En tout cas, ce qu'on peut prendre pour des blagues lourdes, hein, bien sûr. Mais en fait, ce sont des violences. Et il faut mettre ce terme de violence aussi. On subit des violences au quotidien en tant que personne LGBT. Donc nous, d'abord, on a ce travail auprès des personnes qui pourraient les subir, mais aussi auprès des personnes qui les profèrent. Et en fait, de faire comprendre à ces personnes-là que, bien sûr, dans la majorité des cas, et surtout au travail, ça ne vient pas d'une mauvaise intention. Moi, je ne pointe pas forcément du doigt en disant « tu as dit ça, tu es foncièrement homophobe, tu es animé par une idéologie ». Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des propos qui sont répréhensibles et ce sont des propos qui créent un climat d'insécurité dans le travail. Comme tu le rappelais, Dorit, en fait, on vient au travail 5 jours par semaine, parfois plus. Et en fait, il faut qu'on puisse se sentir bien aussi dans ce qu'on fait. Donc nous, on travaille avec les entreprises sur ça. Et puis ensuite, il y a un aspect qui est essentiel, c'est que notre service formation, il sert aussi à former des formateurs, de sorte qu'en fait, nos bénévoles puissent aller sur le terrain et continuer de déployer nos discours. Parce qu'en fait, on a grossi, on est dans toute la France maintenant, et donc il faut qu'on ait des formateurs et des formatrices aguerris, qui soient prêts à aller au contact des entreprises, au contact des écoles, qui soient donc eux-mêmes très au courant des nouveaux sujets, entre guillemets, c'est-à-dire que les minorités, les luttes, en fait, ce sont des sujets qui vivent aussi, qui bouillonnent, il faut se tenir au courant. On a un devoir, nous, en tant qu'association, en tant que fondation, d'être très au clair sur les sujets. Ça peut arriver, hein, bien sûr, de faire des erreurs, de dire une bêtise, mais quand on dit une bêtise, on corrige. Et il faut qu'on ait aussi, nous, en tant qu'asso, cette intransigeance par rapport à nous-mêmes. Je parlais des personnes qui écoutent sur la ligne d'écoute tout à l'heure. En fait, ce sont des personnes qui parfois sont, entre guillemets, très éloignées des sujets LGBT. Beaucoup de bénévoles au refuge, beaucoup de salariés au refuge ne sont pas des personnes LGBT+. Et c'est pas grave. Et donc parfois, quand on n'est pas une personne LGBT, parfois on peut dire une bêtise. Et c'est pas grave. Par contre, derrière, on a les infos pour corriger le tir, pour ne pas redire la même chose. Je pense qu'en fait, si tout le monde avait cette forme de sérénité par rapport à tout ça, si au travail on acceptait de reconnaître qu'on avait dit une bêtise, qu'on a dit une connerie, qu'on a fait n'importe quoi, et qu'en fait, très bien, je prends note, je vais me corriger, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve encore beaucoup enfermé dans une forme de comment dire, un état d'esprit un peu fonceur, où on se dit, non, de toute façon, il y a une cancel culture, il y a... moi j'ai raison, c'est les autres qu'on veut me censurer, etc. Non, en fait, mais juste on vit en société. Le travail, l'entreprise, c'est une mini-société. Donc il faut simplement être respectueux les uns des autres.
Je suis complètement d'accord. Je me permets juste de rajouter, on parle énormément de bien-être au travail. C'est un sujet qui est hyper galvaudé, hyper surcoté. Alors le bien-être au travail, c'est pas mettre un baby-foot et un panier de fruits tous les lundis, c'est pas ça. C'est faire en sorte que son équipe soit à l'aise pour être soi-même, sans condition, sans concession. C'est ça le bien-être au travail.
Oui, tout à fait. Et alors, c'est bientôt la fin. Donc, quelles sont les actions de 2024 pour le refuge auquel peut-être vous prenez part ensemble? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter au refuge et qu'est-ce qu'il faut souhaiter?
Alors, mais vas-y.
Juste parce que j'y pense là. Quand on a fait les 20 ans, Paco m'a dit quelque chose, moi, qui m'a marqué, les 20 ans du refuge, c'est...
Faut que tu dises qui est Paco,
excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Paco, qui est le directeur général du refuge, a dit qu'il aimerait souhaiter qu'il n'y ait pas de 21 ans du refuge et que ça soit le dernier anniversaire. Alors malheureusement, bien sûr, je pense que tu me rejoindras, c'est ce qu'on aimerait souhaiter en fait, hein, parce que bien entendu, si le refuge continue d'exister, ça veut dire qu'il y a toujours des jeunes qui sont à la rue, qui sont toujours chassés, exclus, rejetés par leur famille. C'est un drame humain. Malheureusement, on va pas être utopiste, on va se rendre à l'évidence, ça va continuer. Donc bien entendu que le refuge va rester en place et que pour la suite, je te laisserai expliquer les projets, mais on va continuer à s'engager chacun à différents niveaux, main dans la main, et à faire en sorte de leur mettre un petit peu de lumière dans la vie. Et comme tu le disais si bien, c'est une fondation qui fonctionne grâce aux dons. Donc toujours plus de choses mises en place pour aller vers ces dons-là. Et je te laisserai expliquer du coup comment cette année.
En fait, c'est vrai que nous, on a deux grands projets, deux grands discours, deux grands messages, je pense, pour l'année 2024. Il y a ce sujet qu'on a évoqué longuement, qui est l'insertion professionnelle. Pour nous, c'est une priorité de l'année. On renforce les moyens sur ça, d'ailleurs. On va essayer de recruter des salariés pour s'occuper de ça, des conseillers en insertion professionnelle qui vont faire le lien avec l'entreprise, qui vont aussi permettre de définir très précisément les projets des jeunes qu'on accompagne. Mmh. Le deuxième message, moi c'est un message qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de la visibilisation et de vraiment du fait de pouvoir porter aussi un discours sur les transidentités. Parce qu'en fait, c'est un, je pense, un parent pauvre de l'égalité, des droits humains. Il y a des projets de loi qui sont passés récemment, qui excluent les personnes trans de certains dispositifs de santé publique, par exemple. Et donc, je pense à la PMA, par exemple. Ouais, ouais. La PMA qui avait été ouverte pour les femmes seules. Mais en fait, justement, cette PMA, elle exclut, par exemple, certaines personnes qui ont des utérus. Les hommes transgenres, par exemple, il y a des hommes trans avec des utérus qui peuvent porter des enfants. Et le fait que la loi ne soit pas au rendez-vous pour encadrer des choses qui existent dans la société, je pense que c'est un problème quand ça se joue à ce niveau-là. Donc en fait, on a des progrès à faire là-dessus, et comme je le disais au début aussi, ce sont des choses que l'on doit aux personnes que l'on accompagne, parce que ce serait hypocrite de notre part de penser leur proposer un accompagnement qui soit complet, sans que derrière on ait aussi ce courage de porter un peu des messages qui sont peut-être un peu plus perçus, en tout cas comme plus radicaux. On se dit, ah, quand même, les transidentités, c'est compliqué. Ben non, c'est pas compliqué, en fait. Il y a des personnes qui sont dans des cas très concrets, c'est des applications dans la vie de tous les jours. Ça concerne des entreprises aussi, où les entreprises parfois disent, ben non, nous, on n'a pas de sujet, on n'a pas de personnes trans chez nous, par exemple. Ah bon ? Comment vous savez ? Donc tout ça, ce sont des exercices qu'on va continuer de mettre en œuvre, parce qu'en fait, il y a une urgence aujourd'hui, et on prend part à cette démarche-là, à notre échelle. J'espère qu'on le fait bien. En tout cas, je suis très fier des choses qu'on a pu accomplir. Et donc, et pour pouvoir continuer ces actions-là, il faut qu'on ait aussi un soutien financier de la part de toutes celles et ceux qui ont envie de contribuer à leur échelle aux choses qu'on fait. Et donc, j'appelle un peu solennellement les personnes à nous soutenir en faisant des dons. Notre site, c'est le-refuge.org. Et grâce à ça, en fait, on peut agir de façon très tangible pour changer la vie des personnes qui en ont besoin. Donc merci beaucoup.
J'en rajouterai une couche en disant encore une fois que le refuge existe grâce aux dons et qu'à travers ces dons, on a le pouvoir de casser cet isolement, cette solitude, cette sensation d'être un monstre et de déconstruire justement toute cette image-là pour reconstruire un futur beaucoup plus beau, beaucoup plus positif, porteur d'espoir. Et c'est toutes les valeurs et l'engagement du refuge.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à cet épisode spécial diffusé bientôt.
Merci beaucoup à toi.
Merci, à bientôt. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man. Never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Don't tell them to grow up out of it.